Je présente notre conférencier de ce soir. Il s'agit de Moshe Yaniv, qui est né en 1938, qui est un docteur en sciences en biologie moléculaire et MA de chimie de l'Université de Jérusalem. Il a une carrière de chercheur au CNRS et à l'Institut Pasteur. Il est devenu en 1975 chef de l'unité des virus oncogènes à l'Institut Pasteur, et il est toujours à la tête de cette unité. Il a été, entre-temps, je dirais, et en plus de cette charge, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Institut Pasteur, chef du département de biologie moléculaire de l'Institut Pasteur, chef du département des biotechnologies de l'Institut Pasteur, mais disons que sa fonction actuelle est chef de l'unité des virus oncogènes à l'Institut Pasteur. Et donc il est parfaitement désigné pour nous parler ce soir. Il est membre de l'Institut de France, il est membre de multiples académies et l'auteur de publications scientifiques, essentiellement des publications d'ailleurs spécialisées. J'ajoute une chose, il va nous parler du cancer ce soir. Je lui suis reconnaissant d'avoir répondu positivement à notre invitation, mais je lui suis aussi reconnaissant d'avoir été parmi ceux qui, lorsque, en 98, nous avons commencé à faire ce programme, ont répondu très positivement à notre demande de suggestion. Et Moshe Yaniv est un de ceux qui... mais j'endosse la responsabilité finale de tout, et qui nous a beaucoup aidé à construire la partie du programme concernant la vie. Je lui cède la parole tout de suite. Merci.
Je remercie Monsieur Michaud pour l'invitation de parler ce soir et pour l'organisation de cette magnifique université de tous les savoirs. Je crois que partager avec vous la vie, que c'est une réussite extraordinaire, cette organisation des conférences tous les jours. Et comme M. Michaud a dit, et je ne suis pas un médecin, mais je suis plutôt un chercheur biologiste qui essaie de découvrir ou participer à la découverte des bases biologiques du développement tumoral chez l'homme. Et je vais commencer par donner les plans de mon exposé. Donc, je vais commencer par parler de la maladie, je vais définir la maladie, donner certaines données épidémiologiques sur la maladie, et ensuite je vais revenir sur le développement et la multiplication cellulaire, parce que comme vous allez voir, on doit connaître et comprendre pas mal sur le développement pour essayer ensuite d'avancer nos connaissances sur la cancérologie. Ensuite, je vais parler de cancérologie expérimentale, des modèles animaux qui nous aident beaucoup à comprendre les cancers chez l'homme. Je vais parler des gènes de cancer ou oncogènes. Je vais parler des gènes suppresseurs des tumeurs ou anti-oncogènes. Je vais parler d'une certaine cause de cancer. Je vais parler de prévention et à la fin des traitements futurs qui seront développés dans les années à venir. Donc, je crois que malheureusement, le cancer est une maladie très fréquente dans la population et chacun de nous est en face de cette maladie. Dans la population en général, il y a deux facteurs importants de mortalité, ce sont le cancer et les maladies cardiovasculaires. M. Corvol va vous parler des maladies cardiovasculaires demain. Et moi, je vais essayer de se concentrer sur les cancers. Le cancer est en fait les premières causes de décès chez l'homme et chez les femmes entre 35 et 64 ans. Ça approche presque 50%, par exemple, chez les femmes, et un peu moins chez l'homme, mais c'est la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge. Et ça, c'est une des buts de notre combat, d'essayer de sauver ces gens qui meurent très jeunes. Mais en général, on voudra améliorer les sorts de tous les gens qui sont touchés par les cancers. Maintenant, si on regarde l'évolution de la maladie en fonction de l'âge, et on voit que les cancers... Pardon. C'est une maladie qui dépend beaucoup de l'âge. Il y a, malgré la gravité des cancers chez les enfants très jeunes, à l'échelle globale de la population en France, il y a très peu de cancers des enfants. Il y a à peu près 1 200 cas par an. Chacun est un cas très grave qu'on voudrait éviter ou guérir. Mais le cancer, c'est surtout une maladie, aussi bien l'apparition de la maladie que la mortalité. C'est une maladie qui apparaît surtout autour de 40 ans et qui s'accélère beaucoup après 50 ans, plus chez l'homme que chez les femmes, de même que la mortalité est plus importante chez l'homme que chez les femmes, comme on a vu tout à l'heure. Donc, il faut se rappeler dans notre étude du cancer que c'est surtout une maladie qui apparaît relativement tard dans la vie, et on verra aussi comment on explique ce phénomène d'apparition tardive de la maladie à travers la leçon d'aujourd'hui. Alors, ces courbes et ces données aussi illustrent l'importance des études épidémiologiques pour la connaissance des cancers, les compréhensions des cancers. Les cancers, les tumeurs qui apparaissent dans l'organisme apparaissent d'abord dans un endroit bien spécifique, et souvent il est très restreint au début, et ensuite il y a une multiplication non contrôlée des cellules, une invasion des cellules tumorales dans des tissus sains, dissémination de cellules et métastases. Et cette dissémination des métastases interfère avec les fonctions d'organes vitaux et cause malheureusement la mort. Donc, on parle d'une multiplication non contrôlée des cellules dans l'organisme. Pour essayer de comprendre comment la multiplication cellulaire est contrôlée, il faut qu'on revienne à l'embryogenèse. Je vais illustrer quelques images d'embryogenèse très précoce de souris qui est étudiée, entre autres, dans notre laboratoire. Et comme vous savez certainement, un lait fécondé chez la souris ou chez l'homme, c'est très, très similaire, commence à se multiplier. Et là, on a quelques images de multiplication des trois premiers jours d'embryon de souris. On commence avec lait fécondé, ensuite on passe à des cellules, 3, 4, ensuite quelques dizaines de cellules. Et le développement continue. Par exemple, 7 jours et demi, 10 jours et demi, ensuite on arrive à 15 jours et demi, et là on commence déjà à voir presque une souris avec les pattes, la queue, la tête, l'équerre, les foies, etc. Le développement de la souris prend 21 jours. Chez l'homme, le développement prend 9 mois, comme vous le savez, mais les images qu'on voit actuellement par les images d'échographie montrent un développement très, très similaire. Donc, le développement souris et homme est très similaire. À partir d'une seule cellule, on génère un organisme entier. Dans le cas de la souris, c'est autour de 200 à 500 milliards de cellules. Chez l'homme, on a 1000 milliards de cellules. Donc, une seule cellule s'est multipliée pour donner un très, très grand nombre de cellules. Et cette multiplication s'arrête à un certain moment. Les cellules donnent naissance à des organes. Ensuite, l'enfant ou les souris sont nés. Il y a un développement pendant une certaine période, autour de 18 ans ou 20 ans chez nous. Mais ensuite, l'organisme s'arrête à grandir. Chaque organe se trouve bien à sa place. Chaque organe a sa dimension précise. Chaque organe est composé de différents types cellulaires. Donc, on a, au cours du développement, des programmes de développement, des multiplications cellulaires et des différenciations cellulaires qui sont très, très contrôlées. Si on regarde, par exemple, un couple de tissus, par exemple, ça, c'est un couple de foie, on a marqué ici les noyaux avec une coloration bleue. On voit des organisations très claires, très précises de cet organe. Il y a des artères, il y a des veines, il y a des canicules biliaires, il y a les hépatocytes dans les organes. Et une fois que, par exemple, les souris ou l'homme atteignent l'âge adulte, ces cellules s'arrêtent à se multiplier. Et puis, tout d'un coup, on peut avoir un événement, par exemple dans le foie, qui peut être causé par des virus comme l'hépatite C ou l'hépatite B, ou par des autres raisons, des agents toxiques. Des cellules vont recommencer à multiplier, envahir la région environnante, et ensuite commencer à diffuser et aller migrer dans des autres organes, s'installer dans les autres organes et causer des métastases et ensuite la mort. Donc, quelle est la raison qui permet aux cellules de surmonter au contrôle très strict de l'organisme entier, tout d'un coup, à s'échapper à ce contrôle et à commencer à se multiplier? Et je dirais que les recherches que les biologistes et les cancérologues ont fait depuis une trentaine d'années commencent à nous porter des réponses à cette question, comment est contrôlée la multiplication cellulaire. Si on regarde quelques cellules humaines, dans ce cas-là, c'est des cellules qui viennent de l'homme et de la femme plutôt. Et chaque cellule contient un cytoplasme avec une membrane cellulaire. Ici, on a marqué les membranes cellulaires avec un colorant vert. Et puis, les noyaux, qui est marqué avec un colorant orange, qui colore spécifiquement l'ADN, c'est le matériel génétique. Donc, dans la cellule initiale, dans les fécondés, on a la même quantité d'ADN que dans la cellule fine et somatique, les cellules d'un tissu adulte, mais ce matériel a multiplié au moins 43 fois pour donner une seule cellule, pour donner à partir d'une seule cellule, c'est 10 000 milliards de cellules chez l'homme. Maintenant, quel est le matériel génétique? Depuis un certain nombre d'années, au moins très proche de 50 ans, on sait que le matériel génétique dans la cellule, c'est l'ADN. C'est une double hélice, une longue structure de molécules chimiques qu'on appelle les bases, reliées par une chaîne de ribose phosphate. Et dans les cellules humaines, on a 4 milliards de ces paires de bases dans nos chromosomes, 44 chromosomes plus les deux chromosomes sexuels. Et dans quelques mois, on espère de savoir le contenu total d'informations des génomes humains. Maintenant, cette molécule de l'ADN est présente dans les cellules, dans les fécondés, et elle doit passer à toutes les cellules de notre organisme. Donc, on doit répliquer cette molécule de l'ADN. Ça, c'est un schéma de la structure de molécules avec les paires de bases qui ont une reconnaissance spécifique G avec C, A avec T. Ça, c'est un modèle atomique qui est plus proche de la structure réelle. On parle d'un double hélice de l'ADN tel qu'on le voit ici ou ici. Au cours de la réplication, pour générer une cellule fille, on doit générer des molécules de l'ADN à partir d'une seule molécule et les envoyer de façon très spécifique dans les cellules filles. Mais ce processus de réplication des 4 milliards d'éléments chimiques est un processus qui a un certain... Il est très précis, mais pas précis à 100%. On se base ici, on copie une molécule de l'ADN sur des bases d'interactions chimiques qui ne sont pas 100% spécifiques, 99,9 ou 99,99 de spécificité, mais avec la chimie, les molécules chimiques qui constituent cette structure, on ne peut pas générer un processus qui ne fera pas d'erreur dans quelques milliards d'étapes de réplication. De même, dans tout ce qu'on connaît autour de nous dans notre vie, c'est très difficile à copier cette quantité d'informations sans faire des erreurs. Maintenant, les cellules ou l'organisme se protègent contre ces erreurs possibles. On a tout un système de réparation qui essaye d'éviter des erreurs, mais ce système n'est pas efficace à 100%. Et d'ailleurs, si ce système était efficace à 100%, on empêchera totalement l'évolution. Je crois que les leçons initiales étaient par François Jacob sur le bricolage et l'évolution. L'évolution, depuis l'apparition d'organismes vivants sur la Terre, il y a presque 4 milliards d'années, est associée à des modifications dans l'organisme. L'évolution de l'être humain lui-même est associée à des modifications dans notre génome, dans notre patrimoine génétique. Donc, on ne peut pas demander à la nature de générer quelque chose qui est totalement sans aucune erreur, parce que ça empêchera totalement l'évolution. Donc, on doit comprendre qu'au cours de la multiplication cellulaire dans l'organisme, on peut avoir certaines erreurs. Maintenant, il ne faut pas oublier que la multiplication cellulaire ne s'arrête pas avec la formation de l'organisme adulte. Chez nous, à tous les âges, il y a un renouvellement cellulaire très très rapide tout au long de la vie. Les cellules de sang, les globules rouges, les globules blancs, la peau, l'intestin, l'estomac, les poumons, on a un renouvellement permanent des cellules. Les seules cellules qui ne se renouvellent pas, malheureusement, c'est les neurones. Et c'est pour ça qu'ils vieillissent après un certain âge. Et on commence à avoir des problèmes de mémoire. Mais beaucoup de cellules dans l'organisme continuent à se multiplier de façon très, très active. Et tous les jours, il y a des milliards et des milliards de cellules qui se multiplient dans l'organisme. Et là, de nouveau, on peut avoir des fois des erreurs spontanées dans cette réplication de l'ADN. Et on va voir tout à l'heure que certains gènes humains qui sont importants pour la réplication, la multiplication de l'ADN et pour les réparations des erreurs dans cette multiplication, quand ils sont touchés par des mutations chez des personnes qui portent ces mutations, ils peuvent causer un cancer. Donc, la réplication de l'ADN doit être précise et les réparer de façon très, très efficace, mais elle doit permettre un certain taux de variabilité pour permettre aussi l'évolution. Donc, on dirait de façon philosophique, je ne suis pas philosophe, mais que l'évolution est liée à, malheureusement, à l'émergence des cancers chez l'homme et chez l'animal. Maintenant, j'ai dit que les recherches sur les cancers ont beaucoup progressé depuis, je dirais, 30 ans. Et un des grands avancées dans ces recherches était la possibilité d'obtenir un cancer sur des modèles animaux. Et je sais que certains d'entre vous reprochent aux chercheurs d'utiliser les animaux pour les recherches, mais je dirais que sans les modèles animaux, nos connaissances sur les cancers n'auraient pas avancé et la possibilité de développer de nouveaux traitements et déjà les traitements existants n'auraient pas pu avancer comme elle est arrivée à ce stade aujourd'hui. Donc, les modèles animaux, nous, on utilise beaucoup les souris parce qu'ils sont relativement petits et on peut héberger un certain nombre et travailler avec un certain nombre d'animaux parce qu'on doit avoir un certain nombre pour avoir des données statistiques et correctes. Donc, on a pu montrer que des agents toxiques qui attaquent l'ADN, soit des produits chimiques, soit des irradiations, peuvent causer des tumeurs, des cancers dans des modèles animaux. Et on appelle ces agents des agents génotoxiques parce qu'ils attaquent notre génome. Il y a même certains cas d'apparition des cancers chez l'homme qui est dit à un agent génotoxique. Et par exemple, dans le passé, les ouvriers qui nettoyaient les cheminées étaient attaqués par des produits cancérogènes, aux génotoxiques qui se déposaient dans les cheminées. Et à la fin du siècle dernier, les ouvriers qui peignaient les chiffres dans les montres avec les radiums et pour les dessiner très fin, ils avaient émetté dans la bouche les pinceaux pour qu'ils soient très fins avec les radiums, ils obtenaient des tumeurs dans la langue. Donc ça, c'était Il y avait certaines évidences chez l'homme, mais ensuite on devait les prouver chez l'animal. Un autre grand domaine qui surtout nous a aidé à comprendre l'évolution des cancers, ce sont des virus. Des virus qu'on appelait virus oncogènes, virus qui peut causer des cancers chez les animaux. Et on a isolé de tels virus chez les poulets, chez les souris, chez les rats, dans certains cas même chez les chats. Et c'était des virus ARN qui sont appelés des rétrovirus, qui peut infecter des cellules de l'animal, intégrer une copie de l'ARN sous forme d'ADN, ça c'est acide désoxyribonucléique. Ces virus sont acides ribonucléiques, mais il y a une enzyme qui convertit cet acide ribonucléique en acide désoxyribonucléique qui s'intègre dans le génome de l'animal et peut causer un tumeur dans l'animal. Et les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi ces virus peut causer relativement rapidement un tumeur chez les poulets ou chez les souris. Et des études qui étaient faites à San Francisco, et entre autres dans lesquelles participait un chercheur français, et Dominique Stellin, ont montré qu'on a deux classes de virus. Il y a des virus qui contiennent au code pour trois protéines structurelles et qui donnent des cancers très lentement chez les souris ou chez les poulets, et très souvent des leucémies, mais qu'il y avait par contre des virus qui donnaient une sarcome, dans ce cas-là chez les poulets, et cette tumeur apparaissait très très rapidement, dès ou trois semaines après l'injection de ces virus chez les poulets nouveau-nés. Et on a pu montrer que ces virus oncogènes, dans ce cas-là, c'était le virus de sarcome de Rous. C'était un chercheur américain qui travaillait, isolait les premiers ces virus à l'Institut Rockefeller. On a pu montrer que ces virus contiennent un gène supplémentaire par rapport au virus qui donnait des tumeurs, mais très, très lentement. Et on a appelé ces gènes oncogènes au gène qui est capable de causer un cancer. Et c'est Dominique Stellan qui était la première, avec Bischoff et Varmus, qui a montré que cet oncogène, qui s'appelait dans ce cas-là SARC, parce que c'était le virus de sarcome de Rous, est d'origine cellulaire. Il y avait une copie de ce gène dans le génome des poulets. Et les virus, de certaine manière, a parasité ce gène, l'a modifié partiellement, et il est devenu un gène de cancer. Au début des années 80, quand les technologies de ce qu'on appelle des génies génétiques sont apparues, la capacité d'isoler des gènes de n'importe quel animal, de les amplifier, de séquencer, ou savoir les séquences nucléotidiques, donc la composition en paire de bases de gènes, on a pu montrer que dans les génomes des poulets, ou chez les souris, ou chez l'homme, il y a un gène qui s'appelle CSARC, ou on appelait ça un proto-oncogène, un gène qui a donné naissance à cet oncogène, qui, comme la plupart des gènes dans l'organisme est supérieur, comme les poulets, l'homme, il est morcelé à différents morceaux. Il y a au moins une dizaine de fragments qui codent pour ces gènes. Le virus a piqué la plupart de ces morceaux, l'a modifié partiellement avec certaines mutations. Donc, on revient à des mutations qui peuvent changer le contenu génétique. Et ces gènes d'origine cellulaire mutés, modifiés partiellement, est devenu un gène capable de causer des cancers. Ce n'est pas un exemple unique. Il y a au moins quelques dizaines, 60 ou 70 gènes qui étaient depuis isolés dans des virus, rétrovirus oncogènes, qui sont capables de causer des tumeurs dans l'animal, capables aussi de convertir in vitro une cellule normale en une cellule tumorale. Et on a montré que tous ces gènes sont des origines cellulaires qui sont modifiés par rapport au proto-oncogène initial et qui peut causer, transformer des cellules, donc transformer une cellule normale vers une cellule tumorale. Une fois qu'on a obtenu cette information, et beaucoup de chercheurs sont retourner vers des cancers chez l'homme ou des cancers induits chimiquement, par exemple, chez les animaux, et poser la question, est-ce que ces gènes sont modifiés dans les cancers humains ou dans les cancers des animaux? Et on a réalisé très rapidement que la plupart des oncogènes ou des proto-oncogènes qu'on a identifiés avec les rétrovirus sont modifiés dans différents cancers humains. Et par exemple, un des gènes qui est modifié dans presque 50% des tumeurs humaines s'appelle RAS, HRAS. Il y a trois gènes RAS dans notre génome, mais ce gène RAS est muté entre Harvey RAS et Kirsten RAS. C'est des chercheurs qui isolaient ces virus initialement. Ils sont mutés dans environ 40 ou 45% des tumeurs humaines. Donc, le même gène qu'on a isolé dans des virus qui donnaient des cancers chez la souris ou chez les poulets sont touchés dans les tumeurs humaines. Dans beaucoup de cas, on a montré qu'une mutation ponctuelle, par exemple une mutation ponctuelle dans cette protéine, est suffisante de rendre un gène cellulaire normal, un proto-oncogène, le rendre oncogène. Et on va revenir plus tard sur les fonctions possibles de ces gènes RAS. Une mutation ou une erreur dans la structure des gènes qui peut être soit spontanée au cours de la réplication, soit causée par un agent chimique, soit par irradiation, n'est pas le seul mécanisme de modification des proto-oncogènes. Dans certaines tumeurs, on a une amplification des gènes qui peut être pas modifiée, mais on augmente les dosages des gènes. Par exemple, les gènes NMIC est amplifié dans les neuroblastomes chez les enfants. Ce qui arrive souvent aussi, souvent dans des tumeurs hématopoïétiques, c'est des translocations chromosomiques. Des morceaux de chromosomes se mettent ensemble de façon non spécifique. Et je vais essayer d'expliquer ça brièvement. Et on a notre karyotype normal. Et quand on prend une cellule au cours des divisions, les chromosomes se condensent, on peut les étaler, on peut essayer de les colorier. Et cette image n'est pas coloriée, mais on peut colorier maintenant, c'est même chaque chromosome avec un colorant différent. Et ensuite, on essaie de regarder les chromosomes un après l'autre, entre 1 et 22. Et dans ce cas-là, c'est un XY, donc c'est une cellule d'origine mâle. Et chaque chromosome a son profil typique, et là, on peut, par coloration, distinguer certaines régions dans les chromosomes. Et par exemple, dans une lymphome de Burkitt, des lymphomes qui sont associés à des infections par des virus chez les enfants en Afrique et dans la partie sud de la Chine, on a réalisé que tous les lymphomes de Burkitt, c'est des lymphocytes qui se multiplient de façon non contrôlée et causent un tumeur, une invasion des différents organes par ces lymphocytes. Les chromosomes 8 et les chromosomes 14 sont modifiés de façon réciproque. Si c'est le chromosome 8 normal, dans les lymphomes, il y a un deuxième chromosome. Chaque cellule contient deux chromosomes, mais un d'origine parentale et un d'origine maternelle. Donc, il y a un chromosome 8 partiellement délété, qui manque un petit bout, et d'autre part, il y a un chromosome 14 normal et un deuxième chromosome 14 qui contiennent un bout supplémentaire qui est venu de cette chromosome. Donc, on a pris un morceau d'ici, on l'a passé ici, et on a généré une fusion entre deux gènes, entre les gènes, un morceau de gènes d'immunoglobuline qui s'exprime dans les lymphocytes, et CEMIC. CEMIC, c'est déjà, si vous vous rappelez, j'ai parlé de NMIX, un oncogène qui était identifié dans un rétrovirus de poulet, un virus oncogénique. Et cette translocation des gènes MIC vers les locus de l'immunoglobuline active la transcription de MIC parce que l'immunoglobuline sont exprimées dans la lymphocyte B. Cette translocation arrive dans tous les lymphomes, donc on peut montrer que c'est important. On peut même reproduire chez la souris et montrer que cette translocation cause des tumeurs chez la souris. Donc, de nouveau, utilisation de modèles expérimentaux pour montrer que réarrangement des chromosomes est important pour la génération des tumeurs. On a une autre translocation que je voudrais illustrer. J'espère qu'on voit les diapos. C'est le chromosome 22, c'est un tout petit chromosome. Et dans certains malades qui ont une leucémie myéloïde chronique, ils perdent un morceau de chromosome 2 qui va vers le bout du chromosome 9. Ça s'appelle le chromosome Philadelphia, qui est typique, que les hématologues identifient pour caractériser cette leucémie. Donc, et là, cette translocation d'un morceau de chromosome d'ici vers ici génère de nouveau un oncogène qui s'appelle BCR-Abelson. Et Abelson, c'est de nouveau un oncogène qu'on a identifié dans le rétrovirus des poulets. De nouveau, Abelson, c'était la chercheur qui a identifié. Et rétrovirus des souris, et Abelson, c'était la chercheur qui a identifié. Et ce genre de translocations chromosomiques, sont, comme je dis, est très courant, très récurrent, et on ne comprend pas toujours le mécanisme. Ici, on sait que c'est les gènes d'immunoglobuline, c'est les gènes qui se réarrangent dans les lymphocytes, et là, il y a un réarrangement défectif qui les ramène vers MYC. Dans ce cas-là, on ne sait pas pourquoi il y a cette translocation, mais elle génère de nouveau un oncogène. Donc, on a des mécanismes, des erreurs, soit dans la réplication qui génère des mutations, soit des agents chimiques, soit des translocations chromosomiques qui génèrent des oncogènes à partir des proto-oncogènes. Maintenant, puisque j'ai ces images de chromosomes, je vais juste rappeler que dans les bouts de chromosomes, il y a des fragments d'ADN qui sont là pour protéger les bouts de chromosomes. Ils s'appellent des télomères et qu'il y a des enzymes qui maintiennent ces bouts de chromosomes. La télomérase, certains d'entre vous certainement ont entendu parler de ça et je vais revenir là-dessus parce que c'est une structure et un enzyme qui sont très importants aussi dans le domaine des cancers. Donc, on a montré que les oncogènes qui sont responsables des cancers causés par des virus sont aussi très souvent modifiés dans les cancers humains et on peut montrer qu'ils sont responsables au moins en partie pour la formation des cancers. On verra tout à l'heure qu'un seul événement dans la plupart des cas n'est pas suffisant pour générer une cellule tumorale. Il faut plusieurs événements, mais la formation d'un oncogène, déjà, c'est une étape. Maintenant, quand on a travaillé sur ces virus et oncogènes ARN, et il y avait des autres labos, entre autres les nôtres, qui a travaillé sur une autre classe de virus, et c'était des virus oncogènes à ADN. Ils ont des génomes sous forme d'acide désoxyribonucléique, donc un ADN double brin. Par exemple, un exemple de ces virus, ce sont des virus de papillomes qui sont associés avec le cancer des cols d'utérus, l'infection des cols d'utérus et cancer des cols d'utérus chez la femme. Et ces virus, quand on les a séquencés, on l'a étudié, on n'a pas trouvé ces fameux oncogènes d'origine cellulaire dans ces virus. Et c'était un mystère, pourtant, par exemple, des virus dans des souris ou des singes, quand on l'injecte chez des souriceaux nouveau-nés, cause des cancers chez ces souriceaux. Et ces virus n'avaient pas des oncogènes d'origine cellulaire ou des proto-oncogènes. Et c'était un mystère pendant un certain temps, comment ils causent des cancers, ces virus. Et puis, on a réalisé que, par exemple, un virus des singes, un virus qui peut causer le cancer chez la souris, ou un virus des souris qui peut causer aussi le cancer chez la souris, ou les virus des papillons qui sont associés au col d'utérus, ou un autre virus, adénovirus, code pour, donc leur ADN est transcrit en ARN messager, il code pour des protéines, toujours l'information génétique passe ADN, ARN, protéines. Donc, ils codent pour des protéines. Et dans ce cas-là, dans ce virus, une protéine qui s'appelle T-antigène ou antigène tumoral, parce que cette protéine était détectée dans le cellule tumoral. Et puis, on a pu montrer que cette protéine interagit avec des protéines cellulaires P53 et RB. De même manière, le virus de papillomes, dans ce cas-là, c'est des petites protéines du virus de papillomes, S6. Oh. Une phase ouverte de lecture qu'on a définie quand on a séquencé le premier virus de papillomes humains. On a appelé ça S6, c'est une protéine d'à peu près centaines d'acides aminés, aussi S7. Cette protéine interagit avec P53 et cette protéine interagit avec RB. De même, adénovirus code pour deux protéines, une protéine ENB qui interagit avec P53 et une autre protéine qui interagit avec ENA. On soupçonnait que cette interaction est importante pour l'activité transformant l'activité cancérogène de ces virus. Et puis, très rapidement, on a réalisé que ces gènes sont aussi très importants pour les cancers chez l'homme et que ces gènes RB est muté dans les rétinoblastomes chez l'enfant et ce gène P53 est muté dans presque 50% des tumeurs humaines. Donc, de nouveau, des travaux sur des virus et des animaux, des travaux sur l'animal ou sur des cellules animales, ont révélé l'existence de protéines qui doivent être neutralisées par les protéines virales pour que le virus puisse transformer ou causer un cancer chez l'animal. Et c'est les mêmes protéines qui sont mutées ou inactivées dans les cancers d'hommes, cancer humain ou cancer animal. Maintenant, P53 et RB sont des prototypes d'une nouvelle famille de gènes qui sont associés aux formations des cancers. Très vite, on a réalisé que ces gènes sont, plutôt qu'être oncogènes, sont des gènes suppresseurs de tumeurs. Ou on l'appelle des fois anti-oncogène, mais je préfère l'expression suppresseur des tumeurs, parce que dans les tumeurs, soit animales, soit chez l'homme, on doit perdre les deux allèles du gène normal par mutation ou par délétion. Donc, ces gènes, leur présence dans la cellule ou dans l'organisme, empêche la genèse d'une cellule tumorale, et on verra tout de suite pourquoi, et leur inactivation de deux copies, chacun de nos cellules contient, comme j'ai dit, un chromosome maternel et un chromosome paternel, donc on a deux copies de chaque gène, il faut inactiver les deux copies pour que les cellules deviennent tumorales. Donc, on appelle ça des gènes suppresseurs des tumeurs, parce qu'il faut inactiver ces gènes pour générer un cancer. Maintenant, quelles peuvent être les fonctions aussi bien des oncogènes que des gènes suppresseurs des tumeurs? Et là, la biologie, c'est un champ très large, extraordinaire, et on peut apprendre des choses sur un organisme et essayer de les... C'est ça qu'on apprend sur un organisme, aide à comprendre les autres organismes, et entre autres l'homme. Et c'est surtout des études initiales sur la levure, sur l'oursin de mer, sur des xénopes, qui nous ont appris et beaucoup sur la régulation de la multiplication cellulaire. Et je voudrais m'arrêter quelques instants sur ça qu'on appelle contrôle du cycle cellulaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque cellule doit c'est multiplié en D et qu'il y a au moins une quarantaine de divisions à partir d'une cellule de lait fécondé pour donner toutes les cellules de l'organisme. Et chaque division contient quatre phases, une phase de mitose, une séparation entre des cellules filles, entre les cellules parentales donnent naissance à des cellules filles, donc la phase de séparation, chaque cellule fille doit recevoir une copie de chaque chromosome de la cellule mère. Il y a ensuite une phase de préparation, une phase d'attente où on prépare toute la machinerie pour répliquer l'ADN, pour répliquer cette double hélice Watson-Crick, les quatre, dans le cas des cellules humaines, quatre dispositions SNF paires de base. Ça prend autour de 8 heures dans les cellules humaines. Donc, on duplique les chromosomes et ensuite, on commence à condenser les chromosomes pour les préparer à une séparation entre des cellules filles. Maintenant, ce cycle cellulaire est contrôlé de façon très, très précise au cours du développement et dans la vie d'organisme. Au cours du développement, par exemple, les cellules doivent se multiplier très rapidement pour former les organes, très rapidement chez les souris, un peu plus lentement chez l'homme, mais quand même, il y a un nombre, chaque cellule se divise chaque 24 heures à peu près au cours du développement, et ensuite, il s'arrête et on doit avoir une division très contrôlée. On a vu que cette progression dans le cycle qui va dans ce sens, réplication, division, ensuite de suite, est contrôlée par des facteurs de croissance qui sont présents dans les milieux ou par les contacts entre cellules. Et tant qu'on a des facteurs de croissance, la cellule va continuer à multiplier. On peut les reproduire in vitro en culture de tissu. On ajoute des facteurs de croissance et les cellules se multiplient. Par exemple, quand on se blesse, il y a une libération à partir des plaquettes humaines, des facteurs de croissance qui vont pousser la multiplication, la réplication de l'ADN, des cellules de derme, d'épiderme, pour réparer la blessure. Maintenant, les facteurs de croissance se fixent sur des récepteurs qui se trouvent à la membrane cellulaire. J'ai montré au début une image d'une cellule avec une coloration verte de la cellule. C'est des protéines qui se trouvent sur la membrane cellulaire. Et par exemple, on a montré que certains récepteurs à la membrane cellulaire, s'ils sont mutés ou s'ils sont amplifiés, par exemple dans les cancers des seins, il y a amplification d'un récepteur pour un facteur de croissance, ça va donner un signal plus fort et ça va permettre une multiplication non contrôlée des cellules. Maintenant, une fois que le signal à partir des récepteurs va commencer à passer dans la cellule, il y a ce qu'on appelle une voie de transmission de signal qui passe de la membrane cellulaire à travers le cytoplasme vers le noyau pour activer la machinerie de réplication, la machinerie de transcription qui permet de dupliquer le nombre de protéines, de messagers qu'il y a dans les cellules. Un des éléments clés de cette voie de transmission de signal, c'est cette proton cogénérase qui est mutée dans beaucoup de cancers. Et quand il y a cette mutation ponctuelle dans cette race, ils deviennent actifs de façon constitutive. Donc, il va donner un signal positif pour permettre une réplication non contrôlée des cellules. On a identifié plusieurs oncogènes, il y a plusieurs voies de transmission de signal, l'image est très complexe, je ne peux pas projeter un diapo avec toutes les voies, mais une communication très précise entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Et certaines de ces communications passent par cette voie-là, et il y a des autres oncogènes qui étaient identifiés dans ces voies-là. Maintenant, RAS va finir par activer un gène qui s'appelle cycline D, qui était découvert, cette protéine était découverte initialement dans les oursins de mer, parce qu'il cycle avec le cycle cellulaire, il est synthétisé ici, et ensuite il est dégradé ici. Cette protéine est associée avec une protéine kinase. C'est une protéine qui modifie de façon covalente les protéines par phosphorylation. C'est un événement très, très important dans les cellules. Ça permet de changer très rapidement l'activité des protéines dans la cellule en fonction de la signal. En quelques minutes, on peut changer l'activité des protéines kinases et la nature des protéines. Maintenant, cette kinase, qui dépend de la présence de cycline, va phosphoryler RB. RB, vous vous rappelez, j'espère, c'est un gène suppresseur des tumeurs. Donc, si on phosphoryle RB, on va inactiver RB, parce qu'une fois phosphorylé, RB ne peut plus inhiber un facteur de transcription qui s'appelle EDF, qui est nécessaire pour rentrer dans le cycle cellulaire, dans la phase de synthèse d'ADN. Donc, si on neutralise RB, on n'a plus cette boucle inhibitrice, et EDF deviendra constitutif, donc la cellule va rentrer. Si on fournit un signal très fort ici, on va activer ça, on va inactiver RB, donc on aura plus d'inhibition et la cellule va rentrer dans le cycle. Donc les oncogènes, c'est quelque chose qui va souvent activer un signal. Par exemple, dans certaines tumeurs, il y a une surexpression de cycline D1, dans certaines tumeurs, il y a une modification de cette kinase. Donc, les oncogènes souvent vont fournir un signal plus fort ici qui va surmonter l'inhibition par cette protéine RB, ou l'inactivation d'un gène suppresseur des tumeurs RB va empêcher cette inhibition et va permettre la multiplication cellulaire non contrôlée. Ici, on voit un autre gène suppresseur des tumeurs, P53. C'est des gènes qui étaient inactivés par les virus à ADN, virus oncogène ADN. On a montré que P53, c'est un élément de réponse des cellules aux dommages causés de l'ADN. Quand la cellule est attaquée par des agents génotoxiques, quand il y a des modifications dans le génome cellulaire, il y a un signal qui va stabiliser cette protéine. Cette protéine va produire, activer la transcription d'une protéine qui s'appelle P21, et cette P21 va inhiber cette kinase, donc inhiber toute cette voie-là, et d'autre part, va inhiber la rentrée en S. Et en plus, ce n'est pas dessiné dans ce schéma, P53 va inhiber aussi l'entrée de la cellule dans la mitose en empêchant la progression des cycles cellulaires ici. Donc, dès gènes suppresseurs des tumeurs qui sont très importants pour la réponse des cellules à l'environnement et pour l'entrée dans la multiplication cellulaire. Donc, on a vu que les virus modifient des mutations dans de tels gènes peut causer des cancers. Maintenant, et malheureusement, certaines familles, c'est très rare, mais on pense qu'environ 5% des cancers sont d'origine familiale, certaines familles portent une mutation dans l'une des copies de gène P53. Et par exemple, ces familles-là, ça s'appelle le syndrome de Leaf-Romani, les hommes ou les femmes vont développer un cancer relativement très tôt et à un certain âge, chez l'homme autour de 60 ans, chez les femmes malheureusement plus jeunes, presque tous les porteurs de cette mutation vont développer des tumeurs. On peut produire le même symptôme chez la souris en inactivant le gène P53, un des deux gènes P53 à la souris et essayer d'étudier comment surmonter cette sensibilité aux tumeurs. Ce n'est pas le seul syndrome de sensibilité aux tumeurs. Malheureusement, il y a certains gènes portés par certains d'entre nous qui sensibilisent à la formation des cancers des seins ou sensibilisent aux formations des cancers de la peau, etc. Maintenant, et je vais revenir sur les questions d'âge. J'ai dit que le cancer apparaît très, relativement tardivement au cours de la vie humaine, heureusement pour nous. Et on a montré que les formations des tumeurs, c'est un processus à plusieurs étapes et qui nécessite, à vrai dire, pas une seule mutation. Heureusement pour nous, pas une seule mutation est nécessaire pour la formation des cancers, mais plusieurs mutations. En partie, ça c'est expliqué par le fait qu'une progression tumorale, on part d'un tissu normal, ça c'est la peau, les cellules basales qui doivent se multiplier pour se renouveler. Peut y avoir un événement qui cause une dysplasie, donc un certain épaississement de cette couche qui se multiplie. Et ensuite, on peut avoir encore une multiplication encore moins contrôlée, on peut avoir un carcinome in situ. Et ensuite, on va avoir un débit d'invasion cellulaire. Les cellules vont digérer la matrice sous la peau et commencer à pénétrer et ensuite migrer et métastase. Et on a pu montrer que pour arriver à ce stade-là, heureusement pour nous, on a besoin de plusieurs mutations. Une mutation d'un seul gène peut nous prédisposer à développer un cancer, mais pas suffisant pour développer un cancer. Et il y a quelques mois, il y avait des expériences très médiatiques des professeurs Robin Weinberg aux États-Unis qui ont essayé de reproduire le processus de transformation tumorale et des cellules in vitro. Et ils ont montré qu'on a besoin au moins 4 étapes pour transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse. On a besoin de fournir cette enzyme télomérase et ils ont montré avec des autres équipes qu'en absence de télomérase, les cellules normales ont un durée de vie, un nombre de divisions limité, ils vont rentrer en sénescence. Donc, ils ont formé la télomérase, ils ont mis cette protéine virale, l'antigène T du virus SV40, qui neutralise les deux gènes suppresseurs des tumeurs P53 et PRB. Et ensuite, les cellules sont devenues immortalisées. Ensuite, ils ont ajouté l'oncogène RAS, l'oncogène qui fournit un signal continu de type facteur de croissance, et ils ont obtenu transformation tumorale. C'est une cellule qui est une cellule tumorale in vitro, mais ce n'est pas encore une tumeur chez l'animal. Pour avoir une tumeur chez l'animal, ils ont énuméré dans un article récent plusieurs étapes: autosuffisance pour des signaux de croissance, absence de sensibilité aux signaux inhibiteurs RB et P53, échappement à l'apoptose, soit par l'absence de P53, soit par une activation d'un gène qui inhibe l'apoptose. L'apoptose, c'est un programme cellulaire, de mort cellulaire programmée qui se déclenche dans la cellule quand les cellules ne se sentent pas très bien, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, si on introduit RAS immédiatement dans la cellule, il va mourir. Il faut d'abord inactiver P53, ensuite on peut introduire RAS. Donc, il y a un certain ordre probablement qui est important dans cette multi-étape d'évolution tumorale. Ensuite, il faut une immortalisation ou multiplication illimitée, la télomérase. Ensuite, pour que les tumeurs puissent avoir et être nourries par les sondes, le tumeur va sécréter un agent qui va stimuler l'angiogénèse, la formation des vaisseaux sanguins dans les tumeurs. On va ensuite les cellules pour envahir, pour métastaser. Il doit être capable d'invasion tumorale. Souvent, il perd une protéine de surface. Et peut-être, dans certains cas, il doit échapper à la réponse immunitaire. Donc, heureusement pour nous, la transformation en formation de tumeurs, c'est un processus multi-étape. Et ça aussi, ça suggère immédiatement la compréhension qu'on a obtenue ces dernières années de ce processus long, complexe et des formations tumorales, aussi prédit les différentes approches des thérapies antitumorales qu'on verra tout de suite dans très peu instant. Maintenant, peut-être avant de parler des thérapies antitumorales, qui sera mon dernier chapitre, je vais parler de prévention. Il est beaucoup plus facile à prévenir des cancers qu'à guérir. Ça, chacun doit être conscient de ça. Et on pense qu'on peut prévenir à peu près 30% des tumeurs avec un comportement correct de nous-mêmes, de notre organisme. Et je vais juste donner quelques brèves images statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Ça, c'est le risque relatif du cancer de l'œsophage en fonction des consommations de tabac et de l'alcool. Ça, c'est risque 1, la population normale. Si on consomme entre 40 et 80 grammes d'alcool par jour, ça augmente 7 fois. Et 80 grammes d'alcool, ça veut dire un litre de vin, un peu moins d'un litre de vin, ça augmente à 18 fois. Si on fume 20 cigarettes, ça augmente 5 fois. Et si on fume et on consomme de l'alcool, ça augmente 44 fois. Donc, je crois que ça laisse réfléchir. Il faut boire un peu de vin, mais pas être à ce niveau-là. On peut peut-être fumer, je pense qu'il ne faut pas fumer, mais certainement, il faut être conscient de ces problèmes-là. Et c'est relativement similaire pour les cancers des poumons. En effet, si on regarde l'évolution des cancers des poumons en France depuis 1950, les gens fumaient relativement peu avant 1950. Vous pouvez voir l'augmentation des fréquences de ces tumeurs pour 100 000 habitants. Il y a certains cancers, heureusement, qui baissent. C'est dit aux certains, par exemple, changement d'habitude dans notre nourriture. C'est probablement l'arrêt des consommations des produits séchés ou des produits fumés et l'utilisation des produits congelés ou produits frais qui diminuent les cancers d'estomac. Et malheureusement, certains autres cancers augmentent. Et chez la femme, et une des raisons pour l'augmentation des cancers des seins, comme vous allez voir, c'est les consommations de graisse. Il y a une bonne corrélation, comme vous pouvez voir, entre la quantité de graisse consommée par l'habitant et la mortalité par cancer des seins. La France se trouve ici. Je crois qu'on fera peut-être mieux si on descend un peu, on consomme un peu moins de graisse. Et, par exemple, on peut voir l'augmentation des cancers des seins peut être dit en partie à l'augmentation de consommation de graisse dans la population. Et par exemple, quand des populations à très basse fréquence de cancer, par exemple, comme les Japonais, les Japonaises, immigrent aux États-Unis, ils commencent à consommer plus de graisse et ils commencent à développer plus de cancers des seins. Donc, les études épidémiologiques sont très importantes pour comprendre notre comportement et nos risques qui sont induits par nos habitudes de vie. On peut résumer que pour prévenir autour de 30% des cancers dans la population générale, il ne faut pas fumer du tout, à mon avis. Il faut baisser les consommations d'alcool. Un verre ou deux verres, ça va. Mais il faut baisser surtout les consommations de graisses animales saturées. Il faut manger plus de fruits et de légumes. Il faut se faire vacciner. On pense que dans le monde, et M. Sansonetti a insisté là-dessus hier, 15% des cancers sont d'origine virale, plus dans les pays sous-développés que dans les pays développés. Mais par exemple, la vaccination contre le virus de l'hépatite B a totalement éradiqué le cancer de foie en Taïwan, un pays riche qui pouvait se permettre, et maintenant ils font la même chose en Chine. Et si on arrive à éviter les contaminations, et maintenant on arrive à l'hépatite C, et faire les détections des frottis et essayer d'empêcher le développement des lésions vaginales dues au virus des HPV, le virus des papillons, etc. Donc c'est certainement certains facteurs, ces cinq facteurs. En plus, je crois qu'il semble qu'un exercice physique correct est important pour diminuer le développement des cancers. Un excès d'obésité aussi peut être nocif pour le développement de certains cancers. Donc, nos habitudes de tous les jours peuvent empêcher 30% des cancers, et ça c'est très important, c'est beaucoup plus facile que les traitements. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les traitements? Donc, vous avez entendu beaucoup sur des détections plus précoces, l'utilisation de ce qu'on appelle les puces, les microchips, et détection immunologique, détection précoce des cancers des colons. J'ai parlé des frottis vaginales qui sont importants pour détection des lésions des cols. Aussi, les technologies moléculaires modernes permettent de mieux catégoriser et mieux caractériser les cancers. Donc, on peut essayer de mieux adapter les traitements au type de cancer. Ensuite, on peut espérer, grâce à tout ce qu'on a appris sur l'oncogène, l'anti-oncogène, de développer une chimiothérapie plus douce, plus adaptée. Une fois qu'on bien caractérise les tumeurs, bien catégorise les tumeurs, on peut avoir une chimiothérapie plus douce. On peut essayer, au lieu de tuer les cellules, pousser la cellule à sa différenciation terminale. Les cellules, une fois qu'elles différencient, se multiplient plus. On peut identifier de nouvelles cibles, donc un des cibles qui entend être très étudié dans le laboratoire pharmaceutique, dans des start-up de biotechnologie, c'est la télomérase, les arviras. On peut essayer d'introduire des gènes suppresseurs des tumeurs qui étaient mutés dans les tumeurs par une thérapie génique antitumorale et, par exemple, réintroduire le gène P53 et espérer que les cellules vont mourir pour apoptose au lieu de multiplier. On peut essayer d'agir pour empêcher l'angiogénèse, donc la formation de vaisseaux sanguins dans les tumeurs et en absence des fournitures par des sondes, oxygène, les tumeurs vont mourir. On pense beaucoup en immunothérapie, donc essayer d'éveiller le système immunitaire pour attaquer les cellules tumorales. Donc je pense qu'il y a des chances d'amélioration des traitements, des détections plus précoces et éradication au moins d'une partie des cancers. Mais j'insiste que la prévention est très facile et très importante. Et je pense qu'il faut être humble comme chercheur qui travaille dans ce domaine. Je ne pense pas qu'on arrivera rapidement à guérir tout. Il faut se rappeler que le cancer, c'est un processus très lent qui apparaît tard dans la vie, dans la plupart des cas, et pas toujours facile à combattre. Mais on peut espérer, comme c'est déjà le cas donc pour certains tumeurs de l'enfant, d'adultes relativement jeunes, éradiquer un certain nombre de cancers, améliorer les traitements, les rendre plus humains. Et je pense que les résultats de la recherche dans ces dernières 30 ans a vraiment permis et permettra encore une avancée dans la compréhension, la prévention et l'amélioration des traitements de cette maladie. Et je vous remercie.
Question tout de suite ici. Est-ce que vous pouvez descendre rapidement? C'est pas le bon côté, mais il y en a deux là. Il y a un seul micro? Bon, alors ici, on commence et puis on revient à vous. Hein.
Je voulais vous poser deux questions. La première, la modification de régime des Japonaises allant du Japon aux États-Unis agit favorablement sur le développement des cancers et en même temps agit favorablement sur les maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a un parallélisme, une explication du retentissement cardiovasculaire sur le cancer ou vice-versa? C'est ma première question. Et la deuxième question... on nous a dit qu'on pouvait procéder à des dédifférenciations de cellules actuellement. Est-ce que ces travaux peuvent être utiles pour les recherches sur le cancer?
Et d'abord, concernant les migrations de population, je ne connais pas suffisamment sur les maladies cardiovasculaires. Je crois qu'il faut demander à M. Corvol et Deman. Et quand les populations japonaises immigrent aux États-Unis, les fréquences de certains cancers diminuent. Par exemple, le cancer d'estomac diminue beaucoup parce qu'au Japon, ils consomment beaucoup de poissons séchés, de crevettes séchées. Donc, le cancer d'estomac diminue beaucoup. Par contre, le cancer des seins et chez l'homme, le cancer de prostate augmente. Donc, il s'adapte au cancer prévalent qui prévaut dans la population blanche américaine. Pas 100%, mais s'approche en dégénération. Une génération, c'est un peu plus long. Dégénération, c'est presque identique aux populations américaines. Donc, c'est une bonne indication que l'environnement socioculturel, la cuisine, la bouffe, et sont vraiment des facteurs très importants dans le développement de certains cancers. Par contre, il y a certains cancers génétiques. Par exemple, au Japon, il y a une lymphome qui se trouve, qui est due à l'infection par un virus, que j'ai oublié de se rappeler, HTLV-1. Effectivement, ces gens sont infectés, développent une lymphome de cellules T, mais c'est lié à leur présence endémique dans une partie sud du Japon. Donc ça, c'est génétique, tandis que l'environnement, la nature de nourriture affecte. Maintenant, sur les maladies cardiovasculaires, je ne sais pas la réponse. Mais certainement, la nourriture, comme la nourriture a un effet sur des maladies cardiovasculaires, sur les risques, et ils vont adapter au système. Certainement, ils vont augmenter le risque des maladies cardiovasculaires parce qu'ils consomment plus de graisse, ils mangent plus de viande, etc. Ils mangent moins de légumes, donc ils font moins d'exercice en Amérique, donc forcément, ils vont s'adapter au système américain.
Et la dédifférenciation?
Dans la dernière diapo, j'ai parlé d'une thérapie par la différenciation. Il y a, pour l'instant, et c'est surtout une leucémie promyélocyte chronique qu'on peut guérir par l'acide rétinoïque, plus une chimiothérapie. Donc là, on pousse plutôt vers la différenciation. Dans la plupart des cas, les cellules tumorales sont partiellement dédifférenciées, parce que les cellules différenciées, souvent, ils ne se multiplient plus. Dans les cancers, tous les oncogènes et la disparition d'anti-oncogènes ou des suppresseurs des tumeurs poussent la cellule à se multiplier et partiellement à dédifférencier. Donc, si dans une tumeur, et il y a des spécialistes de cancer ici qui savent mieux que moi, dans le cas des tumeurs, si les cellules sont moins différenciées, souvent le pronostic est moins bon. Donc on veut pousser la cellule vers la différenciation pour empêcher la croissance, parce que souvent les cellules différenciées ne poussent plus.
Bon, ici, on
oui.
a tous.
Ma question concerne le cancer de la prostate. Est-ce qu'on a des informations nouvelles et précises sur ce qui aide à prévenir ce cancer ou, de l'autre côté, sur ce qui le favorise? Merci.
Écoutez, j'ai dit au début que je ne suis pas cancérologue, je suis un chercheur. C'est certain que quand on regarde les différentes populations, je parlais des Japonais, des Chinois, il y a moins de cancers de prostate dans les pays où on mange moins, ou peut-être on marche plus. Donc, il y a certainement un certain, et vous avez vu même en France, depuis 1950, les cancers de prostate augmentent. Je pense que nos habitudes et nos aliments sont un facteur de risque pour les cancers de prostate. On a identifié un certain nombre de mutations dans les oncogènes, dans les suppresseurs de tumeurs dans la prostate. On sait qu'il y a des étapes hormones dépendantes, des étapes hormones indépendantes. Et je ne connais pas assez spécifiquement ce cancer pour vous dire, mais c'est clair que les cancers de prostate augmentent dans les pays occidentaux et que c'est peut-être lié à nos habitudes. Et puis, ces cancers augmentent parce que nous sommes plus âgés que nos parents et nos grands-parents. Hier, Michel Sansonnet y a parlé, il a mentionné que autour de 1900, les espérances de vie en France étaient 35 ans. Donc, beaucoup de gens mouraient avant d'atteindre l'âge où le cancer de prostate devient un problème très grave. Malheureusement, avec les populations vieillissantes, le cancer de prostate devient un problème très, très grave dans la population. Et c'est un des sujets, des études les plus intensives parmi les cancérologues et chercheurs.
Madame.
Bonsoir. Est-ce qu'on reconnaît qu'au départ d'un cancer, il peut y avoir un gros choc psychologique ou un stress important?
C'est une question qui revient toujours. Ma réponse personnelle, ce sera non. Vous avez vu que l'initiation de cancer est liée à une mutation, réarrangement chromosomique, il faut plusieurs événements comme ça. C'est des phénomènes physiques, que ce soit des erreurs dans la machinerie de réplication, soit des effets nocifs des agents génotoxiques. Dans la plupart des cas, c'est des erreurs spontanées, je pense. Dans 95 ou 99% des cas, c'est des erreurs spontanées. Et je ne pense pas que notre système psychique a un effet sur ça. Peut-être notre système psychique a un peu d'effet sur nos réponses immunitaires. Il y a un certain contrôle des progressions tumorales par la réponse immunitaire, mais je dirais que, à mon avis, non. C'est vraiment un phénomène physique qu'on a décrit avec des mutations, des réarrangements, des amplifications qui ne dépendent pas de notre psychisme.
Oui, nous venons de perdre un neveu de 26 ans qui, à l'âge de 24 ans, s'est vu découvrir un mélanome choroïdien. Et dans son adolescence, il avait eu un certain nombre de névus à différents endroits du corps. Et la question que je voulais vous poser, monsieur le professeur, c'est est-ce que sur le plan de la prévention, qui est un axe que vous avez développé tout à l'heure, est-ce qu'on n'aurait pas pu, par une série d'examens, fond d'œil, je ne sais, se rendre compte que la choroïde, tissu épithélial, aurait lui aussi pu être atteint par une forme de névus qu'on appelle mélanome?
Alors, non, à mes connaissances, il n'y a aucune évidence que le mélanome est associé au virus. Le mélanome est associé, entre autres, à irradiation excessive de la peau. Et par exemple, un exemple que je n'ai pas cité, l'exposition excessive au soleil des personnes blondes provoque un cancer de la peau. Et c'est connu, par exemple, que les fréquences de cancer de la peau en Australie, parmi les populations blondes, caucasiennes, est très très élevé par rapport à des autres pays, et c'est parce que c'est un pays où le soleil est très très fort, etc. Et le mélanome en partie est causé par ça. Il n'y a pas d'évidence que ça s'associe au virus. Je ne pense pas qu'on aurait pu prévenir. On aurait pu détecter la lésion très précocement et essayer d'enlever la lésion et empêcher la dissémination des cellules tumorales.
Monsieur, je vais parler comme madame. Et je crois que si justement on ne réussit pas à guérir le cancer, alors que c'est une maladie qui existe depuis de nombreuses années, malgré toutes les recherches scientifiques fantastiques, malgré toutes les chimiothérapies, c'est justement parce que vous venez de dire que le stress n'a aucune incidence. Vous avez pourtant parlé d'un certain âge. Monsieur vient de parler d'une personne qui est morte très jeune, et leucémie d'enfant, on en connaît. Le facteur psychique est fondamental, monsieur. Et on peut très bien... Toutes les neurosécrétions, hein, qui sont le nombre de neurosécrétions, vous les connaissez mieux que moi, puisque vous travaillez in vitro, vous les avez vues, etc. Mais tout le monde sait dans le public que les gens qui ont un cancer, c'est à la suite d'un deuil, c'est à la suite d'une retraite, c'est à la suite d'un retrait dans la vie. Pour parler avec un philosophe, c'est phénoménologique. Hein, et je crois que c'est multifactoriel. La relation, en plus, après, vous n'êtes pas docteur. La relation patient-malade, après, va vers le sadomasochiste. Mais ça sera un autre topo.
Bon, ce sera, hein, un autre sujet.
Mais je crois justement que si vous ne réussissez pas, c'est que vous ne voyez pas le facteur stress humain.
Bien, nous avons écouté votre énoncé. Passez à votre voisin, s'il vous plaît. Passez à votre voisin pour une question.
Bon.
Sauf si vous voulez
répondre. Bonsoir. Je vais répondre juste 30 secondes. Je vais vous donner un exemple. Il y a un cancer très, très agressif chez l'enfant qui apparaît avant un an, souvent à 3 mois. Une de mes chercheurs qui est présente ici a reproduit ce cancer chez la souris. On a des souris qui ont les gènes mutés, ils développent un cancer. Les souris qui ont les gènes normales ne développent pas un cancer. C'est un cancer souvent dans la tête. Et exactement, ça ressemble beaucoup au cancer chez l'enfant. Les souris sont dans la même cage. Une souris avec un gène muté va développer un cancer. Une souris avec le gène normal ne va pas développer un cancer. Ça, c'est pour moi une évidence qu'il faut un événement de mutation, de modification des gènes pour générer un cancer. Je ne dis pas que, par exemple, pour la guérison, pour la réussite des traitements, pour l'état physiologique des malades, les côtés psychiques est très important, les rôles des psychologues dans les traitements, les compréhensions des traitements, etc., est très important.
Bonsoir. Vous avez présenté un graphe sur le syndrome de l'Ifromanie. L'Ifromanie. En fait, moi, je suis apparemment atteint de ce syndrome. Et lorsque j'avais discuté avec les toubibs à l'IGR, ils m'avaient dit qu'en fait, il y avait des risques chez la femme, surtout à partir de 40 ans, et chez les hommes jusqu'à l'adolescence. Or, sur votre graphe, apparemment, on voit une courbe qui est plutôt linéaire.
Et écoutez, c'est un graphe qui m'a été envoyé par un chercheur aux États-Unis, à Houston, et qui était, c'est pas encore publié, et c'était envoyé par Internet, et c'est là les données qu'ils ont aux États-Unis, à MD Anderson, et il y a un groupe très actif à Gustave aussi, certainement ils sont extrêmement compétents, et de toute façon, c'est des statistiques, c'est une fréquence. C'est les données sur à peu près 33 malades hommes et 33 malades femmes. Ce n'est pas un échantillon assez large pour être sûr dans les variations dans la courbe.
Vous pouvez descendre. Non,
en
ici,
fait,
ici.
Le monsieur lève le doigt depuis le début.
Écoutez, c'est moi qui vois la salle d'ici.
Pardon.
C'est
excusez-moi.
Monsieur qui demande depuis le début. Excusez-moi. Et puis ensuite, en haut, et puis on terminera. Hein. Je suis désolé, mais...
Bonsoir. En quoi le traitement hormonal peut causer ou entraîne le cancer du sein pour les femmes ménopausées?
Ok, c'est aussi un sujet plus qui touche les médecins que moi. Et j'ai eu la chance d'écouter cette semaine une conférence par un grand spécialiste d'épidémiologie et de Oxford. Et d'après les données qu'il a montrées et les risques des traitements pendant 5 ans, pendant 10 ans ou 4 ans, et il n'y a pas une augmentation des risques. Après 5 ans de traitement, il y a une augmentation des risques qui, d'après les données statistiques qu'il a montrées, c'était 1,3. Donc ça veut dire une 30% d'augmentation des risques. Mais là, il faut être un médecin, il faut être patient, il faut réfléchir. Si les bénéfices contre l'ostéoporose est beaucoup plus important, les 30% d'augmentation des risques, ça va beaucoup. Quand je vous ai montré l'alcool et les cigarettes, je crois que les pics étaient, la synergie était 44 fois des risques. Donc, il faut réfléchir. Chaque médecin et chaque malade doit réfléchir sur ces problèmes parce que l'augmentation des risques est relativement faible.
Bien. Alors, avant-dernière question, et puis ensuite, madame, là en haut, et on s'en tiendra là.
Bonsoir, monsieur. Alors moi, d'après ce que j'ai compris, l'évolution, la corrélation du cancer avec l'âge, apparemment, elle est due à une accumulation de mutations qui, au bout d'un moment, provoque justement une cancérisation. Alors ce que je voulais savoir, c'est qu'apparemment, il doit y avoir une baisse de vigilance du système de réparation au bout d'un moment. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a des équipes ou un certain nombre de recherches qui se préoccupent justement de cette baisse de vigilance du système de réparation de l'ADN?
Et il y a certainement beaucoup d'équipes qui travaillent sur les problèmes de vieillissement cellulaire. Et on sait que s'il y a une baisse dans la capacité des cellules de réparer, des fois, ils vieillissent plus vite. Et effectivement, certains gènes qui sont mutés chez certains malades, dans certaines familles, prédisposent à des cancers. Et il touche à des réparations. J'ai montré autre P53, mais l'exéroderma pigmentosum, c'est une maladie de la réparation qui prédispose à un cancer. Donc, on obtient un cancer dans les régions exposées au soleil beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas d'évidence que la réparation, l'efficacité baisse énormément, mais il n'y a pas peut-être suffisamment d'études. Les progressions tumorales, entre autres, dit au fait qu'il y a un événement initial qui change un peu les cellules, ensuite les cellules commencent à se multiplier un peu plus rapidement. Peut-être il y a, par exemple, si la première mutation, c'est une mutation en P53, maintenant il est moins efficace dans sa réponse à un génotoxique, donc il va accumuler une deuxième mutation plus facilement que la première mutation, ainsi de suite. Donc, par exemple, dans certains cancers que je connais, par exemple le cancer des cols de l'utérus, il y a souvent 20 ans de décalage entre l'événement initial, l'infection par un virus de papillon, et dans 1% des cas, quand l'infection ne disparaît pas, il y a une progression pour des lésions bénignes, ensuite un carcinome in situ, ensuite une lésion invasive et métastase. Donc, il faut des changements dans plusieurs gènes, et c'est un processus qui, heureusement pour nous, est très lent. Par exemple, le cancer des prostates, dans beaucoup de cas, l'évolution est très lente, heureusement pour nous. Certains cancers sont plus rapides. Donc, on pense que c'est surtout ce problème-là, d'évolution relativement lente, qui fait que le cancer apparaît tard. Et puis, beaucoup de cellules tumorales, beaucoup de cellules, par exemple, si on active, comme je dis, si on active l'oncogène RAS dans une cellule normale, la cellule va mourir par ce programme de mort cellulaire programmée, apoptose. Donc, il peut y avoir des formations de cellules, mais que les cellules disparaissent. Et puis, au bout de 20 ans d'erreur cumulée, il y a tout un coup une cellule qui a échappé à tout ce système de contrôle dans l'organisme et a commencé à devenir un peu transformé, ensuite un peu plus, etc.
Dernière question, s'il vous plaît.
Oui, je voudrais témoigner parce que je suis d'abord atteinte d'un cancer, d'un deuxième cancer, et je suis en chimio. Je l'ai eu lundi, la dernière pour l'instant. Ce que je voudrais apporter, c'est d'abord de dépassionner le débat, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien multiples facteurs qui interviennent pour causer un cancer. Et la première chose que les chercheurs connaissent, c'est que les cellules cancéreuses ont peur de la différenciation. Elles veulent bien se multiplier, mais elles ne veulent pas se différencier ni mourir. Donc, il y a la peur de mourir. Et chaque fois que dans la vie de quelqu'un, il y aura une agression, quelle qu'elle soit d'ordre alimentaire, qu'elle soit d'ordre professionnel, qu'elle soit d'ordre affectif, qu'elle soit d'ordre de la vie, de ce que nous respirons, etc., et ce que nous mangeons, il y aura une agression qui va déclencher quelque chose dans le système des gènes. Donc, il va y avoir à ce moment-là la perturbation qui va arriver. Pourquoi je parle comme ceci? C'est que j'ai eu la grâce, par l'intermédiaire du premier cancer que j'ai eu en 90, de continuer une recherche intérieure que j'avais entreprise et qui a abouti jusqu'à l'origine des choses. Et j'ai remarqué que j'ai donc eu ce deuxième cancer pour voir si j'avais vraiment peur de la mort et si j'avais... Il y avait quelque chose en moi qui transcendait cette peur de la mort. Alors, il y a autre chose qu'il faut que les chercheurs cherchent encore plus loin, c'est sûr, mais il ne faut pas avoir peur du cancer. J'ai beaucoup de personnes que je rencontre à Huguenin, puisque je suis soignée à Huguenin, qui témoignent, elles aussi, le moral est vraiment très important. Donc ça, c'est vraiment un des facteurs essentiels pour guérir du cancer. La deuxième chose, et là je voudrais y aborder ceci, c'est-à-dire que le cancérologue sait que je fais un travail qui est au niveau de la conscience, et il voit qu'effectivement, dans un cancer où j'aurais dû être depuis trois mois après, j'aurais dû mourir, ça fait faire bientôt 3 ans, je suis encore là, et il y a... que la chimiothérapie n'est pas vraiment efficace sur moi, mais qu'il n'y a pas non plus de multiplication des métastases, et pourtant j'en ai aussi. Au contraire, il y a une régression.
Bon, écoutez, pour émouvant que soit votre témoignage, je voudrais bien que vous concluiez.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans notre... au-delà du gène... Le gène est la première, et la modification du gène, c'est la première manifestation, mais ce qui est au-delà, là je ne peux pas entrer dans les détails aujourd'hui, c'est ce qui cause le cancer. Et je suis en train d'écrire un livre justement sur ça. Voilà.
Merci. On va remercier Moshe Yaniv. Hein, et vraiment, merci beaucoup.